BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, la France est le cancre de l'Europe. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va commenter les événements qui ont marqué cette nouvelle semaine et on va essayer de ne pas parler que de la guerre en Iran. On va en parler quand même. On va parler économie, finance, marché et argent. Au sommaire aujourd'hui, malheureusement, le mot de la semaine, c'est France. Et c'est pas pour des bonnes nouvelles. La question macro, la guerre en Iran va coûter combien de points de croissance? Le chiffre de la semaine, ça sera la prochaine baisse des taux par la Fed ou pas. Peut-être qu'il y a des avis différents. Il y a même des gens ici qui peuvent penser qu'il y a les banques centrales qui vont monter les taux d'intérêt. On ne sait pas. En deuxième partie de l'émission, la bourse, évidemment. Quels sont les événements qui ont marqué le plus mes invités cette semaine? Quelle perspective pour la bourse? La question d'argent, le placement de la semaine, le top ou le flop, le top 3 des gérants pour 2026, les actions achetées ou vendues. Mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle et pour continuer à battre des records, parce que nous avons battu un record historique en mars et j'en suis fier, il faut des invités exceptionnels. J'ai le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. C'est la spécialiste de toutes les formes de triathlon et notamment du triathlon économie, finance et taux d'intérêt, Valentine Hénouze. Bonjour, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui et que vous allez nous dire des choses un peu disruptives.
Très
nouveau quoi. Vous êtes responsable de la stratégie TO chez Amundi Institute. Il co-dirige une des meilleures sociétés de gestion avec notre ami Romain Burnan, avec des performances spectaculaires. André Cavalec, vous êtes directeur général de Moneta AM. Vous êtes en forme, les marchés, ça va, tout va bien. Il y a plein d'idées, il y a plein de stock picking à faire.
Écoutez, à date, tout va bien. Merci en tout cas de nous faire participer à ces échanges.
C'est une spécialiste absolue de l'allocation d'actifs. Rien à voir avec Alain Pitou, je peux vous dire. Et en ces temps incertains, on a vraiment besoin d'elle. Pascale Sévy, vous êtes directrice commerciale de Lombard Odier France. Bonjour. C'est ce que vous m'avez dit dans le couloir.
Bonjour,
vous m'avez
Marc.
Dit, Alain, ça n'a rien à voir. Alors, moi, je fais de la vraie allocation d'actifs.
Alors, les yeux dans les yeux, Alain, je te salue.
Comment est-ce possible? Comment peut-on être aussi compétent et sympathique et être d'aussi mauvaise foi? Je n'ai toujours pas la réponse semaine après semaine.
C'est précisément parce qu'on est de mauvaise foi.
L'incontournable Emmanuel Chip, vous êtes en forme?
À fond.
Allez, on commence par le mot de la semaine, France.
Ne m'appelez plus.
Alors, on a eu tous les chiffres 2025 pour tous les pays d'Europe cette semaine et j'ai été, franchement, et je ne dis pas ça pour faire du French bashing ou pour faire du spectacle, j'ai été vraiment effaré par la performance de la France, dette, déficit, dépenses publiques. Alors bien sûr, on en parle tous les jours. Alors à force d'en parler tous les jours, on s'habitue. Sauf que quand on regarde les chiffres des autres pays, on s'aperçoit que on n'est pas obligé d'avoir 115% de dette, on n'est pas obligé d'avoir 57% de dépenses publiques, on n'est pas obligé d'avoir 5,1% de déficit. Il y a des pays qui ont beaucoup moins. Et surtout, quand on regarde la moyenne de l'Europe, le déficit, ce n'est que 2,9% pour la zone euro. C'est 87,8% la dette avec les Pays-Bas. J'ai vu avec étonnement qu'ils étaient à 44%. Je pensais que les Allemands étaient les meilleurs élèves à 63%. Et les dépenses publiques, on est à 57% et la moyenne est à 49,8%. Emmanuel, la question que je me pose, d'abord, est-ce que vous, comme moi, quand vous avez vu tous ces chiffres-là, que vous connaissez par cœur, parce qu'on les voit au quotidien, vous avez été surpris?
Alors, il faut pas tous les traiter de la même façon, avec le même degré de gravité. Et c'est vrai que le tableau que ça dépeint globalement, c'est un pays dans lequel on est les champions du déficit. Alors, il n'y a que la Belgique qui nous passe devant.
Et de peu. Hein.
On est les champions de la dépense. On est les champions des prélèvements. On est, et moi, c'est ça qui m'a le plus frappé, finalement, dans tous ces chiffres, on est quasiment le seul pays dont la dette publique progresse depuis la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que depuis 2022, tous nos grands voisins enregistrent une diminution de leur dette publique. Et nous, ça n'est absolument pas le cas. Donc, en termes de trajectoire, la France est effectivement le pays pour lequel la situation des finances publiques est de loin la plus préoccupante. Et en plus, ce qui est préoccupant, c'est que au regard de ces niveaux records de dépenses, de prélèvements, de déficits et de dettes, vous mettez en face un niveau de vie qui est celui qui a le plus baissé parmi les grands pays, encore une fois, au cours des 20 dernières années. Un pays qui se traîne dans tous les classements internationaux sur l'efficacité de sa dépense publique. Je vous refais pas la litanie de PISA, de la justice, de nos performances en matière de santé, etc. Et donc, c'est là qu'on a un problème absolument considérable. Et pourquoi ça tient pour le moment ? Ça tient parce que finalement, ce système qui nous étouffe progressivement nous évite quand même finalement des gros accidents de parcours en termes de trajectoire de vie.
Mais à quel prix ?
Oui, mais au prix effectivement d'une corde qui se serre doucement autour de notre...
Emmanuel, vous avez fait beaucoup de débats avec des politiques, avec des gens compétents. Je veux dire, ce qu'on est en train de dire, c'était dans les échos, c'est dans tous les journaux. Je comprends pas, vous êtes politique, vous êtes leader politique. Je sais pas, vous dites pas c'est la cata, il faut bouger ?
Non, parce que vous vous dites qu'est-ce que...
Ça passe encore, quoi. Vous dites tant que ça passe, on continue ?
C'est-à-dire, il y a un double scandale. Le premier scandale, c'est un scandale d'ambition. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces décideurs politiques, il faut être honnête, hein, ne se préoccupent quasiment que de la prochaine élection et pas du tout de ce qui va se passer à 5 à 10 ans en France. Et là où ils sont doublement coupables, le deuxième scandale, c'est pas... Le premier scandale, c'est bon, est-ce que c'est un scandale de leur reprocher leur ambition personnelle ? Mais le deuxième scandale, c'est qu'ils se trompent très lourdement sur leur rapport aux Français et sur ce que les Français sont prêts à accepter. Je rappelle que tous les pays dans lesquels on a demandé des efforts importants aux citoyens, le Portugal, l'Espagne, etc., ça a coûté plusieurs milliers d'euros à chaque ménage, à chaque fois. Mais ces pays, aujourd'hui, se sont considérablement redressés. Ah ouais. Et ces gens-là, sur la durée, ont vu leur niveau de vie progresser plus que nous. Absolument. Et ces politiques, là où ils sont donc, pour terminer, doublement coupables, c'est qu'ils pensent que c'est en ménageant les Français qu'ils vont être réélus, alors qu'il n'y a pas un pays où les citoyens crachent autant à la figure des hommes politiques.
Et pour aller dans votre sens, 5,1% donc pour nous de déficit, 4,9% d'excédent budgétaire primaire pour la Grèce. 4,9%, ça vous inspire quoi, Valentine ?
Bah, moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on est aussi en train de changer d'environnement de taux. Si on regardait avant le Covid, on avait une augmentation de la dette alors qu'on avait un environnement de taux qui était extrêmement bas, négatif. Si on regarde 2015-2022, si on prend le rendement à 10 ans sur la dette de l'État français, on était entre moins 0,4 et 1%. Aujourd'hui, le taux de 10 ans français, il est à 3,6, 3,7. Donc, on est dans un environnement de taux qui est aujourd'hui totalement différent. Les taux ont énormément augmenté ces dernières années, parce que la BCE, avant 2022, elle était en territoire négatif, maintenant elle a 2%, et les investisseurs maintenant... Alors on parle de la dette française, on a l'impression qu'il n'y a quand même que la dette française qui a un mauvais élève, mais bon, il y a quand même globalement un vrai sujet sur la dette publique, si on regarde à l'échelle mondiale, hein, c'est pas juste à l'échelle française. Hein.
Non, quand ça, on regarde quand même les chiffres de... Non, je suis pas d'accord. Quand on regarde les chiffres de dette publique, regardez la moyenne de la zone euro, c'est 87,8. On est à 115%. Oh. Les Pays-Bas sont à 44%, si l'Allemagne est à 63%.
L'Italie, on est à 38.
Okay, mais
si on regarde les États-Unis, on est à 125.
L'Espagne est en dessous de nous. Emmanuel le disait, même l'Espagne est en dessous de nous.
On a quand même eu quelques pays en zone euro qui ont énormément progressé depuis la crise de la dette souveraine. Mais globalement, si on regarde la trajectoire à l'échelle mondiale de la dette publique, c'est quand même une augmentation très très significative. Et c'est quand même alerté par le FMI qui souligne quand même qu'on va revenir sur les niveaux de dette publique à l'échelle mondiale qu'on avait après la Seconde Guerre mondiale.
Reparlons de la France. Des gens comme vous qui travaillent sur les taux d'intérêt, vous sanctionnez pas.
Bah, pour l'instant, on est dans un environnement où la croissance tient. Ouais. Si on bascule dans un...
Elle tient.
Non, la croissance, elle tient.
0,9%, vous appelez ça tenir. Vous, quand on paye avec 5% de déficit, on n'a que 0,9% de croissance.
On n'est pas dans une croissance faible. Si sur la zone euro, on bascule dans un environnement où il y a une croissance plus faible, oui, on va sanctionner tous les pays qui ont le profil le plus fragile. Et pour l'instant, il y a aussi des taux. 3,7%, c'est quand même un taux attractif. Et on continue d'avoir une demande...
Ce qu'on a vu cette semaine, quand même, moi, qui m'a stupéfait, c'est quand le gouvernement vous annonce que, grosso modo, ça va coûter 6 milliards d'euros et que là-dedans, il vous met quand même 3,5 milliards
de charge de la dette.
Et en fait, vous dites, mais et comment se fait-ce ? Et en fait, vous vous rendez compte que c'est les obligations indexées sur l'inflation, mais vous avez vu ce que ça représente sur une seule année. Alors après, c'est pas de neige. Ouais. Mais quand même.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui regardez, qui jugez des gens toute la journée pour décider d'investir sur leur capacité à gérer une situation financière. Si vous regardez la France comme une entreprise, vous dites c'est un drame, quoi.
Je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter hein, sur le constat qu'on fait. C'est un constat accablant qui a ses origines de long terme. Hein. Enfin, c'est 81 et la bascule vers une idéologie socialo-communiste hein, qu'on n'a jamais désenchanté le communisme en France. Hein, ça c'est le problème et qui s'est infiltré dans tous les pans de la société avec une culture d'assistanat, mais aussi un espèce de principe de précaution qui s'est diffusé partout parmi les politiciens et qui fait que la prise de risque n'a pas été suffisamment rémunérée en France. Et ça se voit par exemple dans l'allocation des placements des Français, bon, qui financent très peu les actions.
Le Cornu est quand même en découvert hein, sur son compte courant.
Alors voilà, par exemple.
On est dirigé par un gars qui en découvert sur son compte courant, c'est quand même un truc de
par
dingue.
Par exemple, les politiciens n'ont jamais, quand on regarde leurs déclarations de patrimoine, très peu jamais d'entre d'action. Eux ont des actions.
Vous voyez, donc, ce que disait Daniel
quel
Balavoine,
est l'exemple qu'il donne
pauvre pour être honnête. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Ceci dit, moi je suis fondamentalement optimiste et je dirais la France a toutes les capacités de rebondir. Il y a des pays qui ont fait les travaux. Oui, mais il faut des catalysts. Vous voyez,
c'est quoi le catalyste ? On n'en a pas.
Ça peut être aussi, ça peut être de la chance, ça peut être un homme providentiel. Moi je vais vous raconter une anecdote qui me tient à cœur parce que c'est un événement que peu de gens connaissent. Vous voyez, le 18 juin, c'est associé à l'appel du général de Gaulle. Mais le 18 juin 1429, c'est la date de la plus grande bataille, la plus grande victoire des armées françaises. Alors, à l'époque, on était en pleine guerre de 100 ans. La France était dans une situation beaucoup plus sombre qu'actuellement. La moitié de la France était occupée par les Anglais. Leur armée massacrait tout le monde, Crécy, Azincourt, avec des archers invincibles. Et là, vous avez Lahire, donc c'était un homme de guerre avec Jeanne d'Arc qui cherchait, on venait de libérer Orléans, il cherchait les armées françaises, 1500 chevaliers français contre 5000 soldats anglais qui se cachaient dans les forêts, et puis tout d'un coup, il y a un cerf qui sort, qui se rue sur les Anglais et qui montre leur position. Les Français chargent, dans une forêt, les archers ne peuvent rien. En 15 minutes, 2500 morts côté anglais, 3 morts côté français.
Qui sera notre cerf ?
Voilà, qui sera notre cerf ? Ben, le messager, c'est le messager,
en vrai,
il est déjà là. Et après, il faut un homme providentiel qui renverse la table.
On
voilà,
a quand même des
possible.
Indications, c'est intéressant de voir.
Mais pour avoir un homme providentiel, il faut que les Français le désirent. Vous avez dit qu'aujourd'hui,
oui,
la mentalité
sociale...
Non, je suis pas d'accord, parce que la mentalité socialo-communiste que vous donnez, elle a infusé partout dans les mentalités. Je suis pas d'accord avec vous.
Non, parce que les Français aujourd'hui sont plutôt pour une économie de l'effort et libéral. Mais le système électoral, il est tellement construit que l'idéologie...
Moi, je trouve que c'est un peu trop facile d'accuser les politiques parce que
non,
en fait,
c'est
la mentalité
électorale qui fait que...
Alors attendez, juste Pascal.
Non, les acquis sociaux sont quand même complètement là. Moi, ce qui me gêne, au-delà du chiffre, c'est l'usage de la dette. Parce qu'il y a des pays, comme Valentine mentionnait, qui sont très endettés aujourd'hui, mais qui font un bon usage de leur dette, qui trahissent leur souveraineté. On peut assez à décortiquer, mais c'est quand même plus le cas aux États-Unis qu'en France. Nous, la dette qu'on a, on la dépense mal, on ne fait pas de réformes structurelles, on n'investit pas dans les endroits où on devrait investir. Et comme le disait Emmanuel, la charge de la dette est devenue aujourd'hui, du fait de la hausse des taux, la première dépense du gouvernement. C'est quand même un truc de dingue. Parce qu'en fait, on est dans une spirale qui va continuer de s'aggraver. À chaque petite hausse de taux mécanique, parce qu'il y a un environnement ou autre, on voit bien que ça devient très compliqué pour nous.
C'est vrai.
Donc moi, c'est surtout ça, en fait, qui m'inquiète énormément. Et on n'a aucune marge de manœuvre. Aucune.
Manuel, qui sera le cerf ?
Alors, deux motifs d'espoir. Le premier,
le cerf.
C'est qu'en fait, le paradoxe, c'est qu'on vit peut-être dans le pays dans lequel les trajectoires de vie sont les plus sécurisées et où on est le plus malheureux.
Oui.
C'est-à-dire que regardez, il n'y a pas un pays dans lequel les gens sont aussi pessimistes que la France, et il n'y a pas un pays dans lequel vos trajectoires de vie sont aussi balisées. Vous vous faites soigner gratuitement, les études de vos enfants, elles sont quasiment gratuites. C'est un des pays dans lequel vous avez le moins de probabilité de vous retrouver au chômage, et pourtant les gens sont malheureux. Donc moi je pense qu'il y a un carcan à un moment qu'il va falloir sauter. Et si on prend les grands moments de l'histoire où on a été beaucoup plus mal qu'on va aujourd'hui, il faut retenir deux leçons. À chaque fois, on s'en est tiré par l'économie. À chaque fois, c'est des Sully, c'est des Colbert qu'ont redressé le pays. Donc, c'est par l'économie qu'on s'en est tiré et par des économies libérales et par des mesures libérales. Donc ça c'est quand même des bons guides. Mais comme m'avait dit Raymond Barre, parce que j'ai fait la dernière interview de Raymond Barre,
Bravo.
Vivant, la grande interview, c'était pour l'expansion, c'était juste avant qu'il décède, et c'était avant l'élection présidentielle de 2007, Nicolas Sarkozy, je lui avais dit alors, c'est à l'époque on disait, oh la réforme, tout ça, etc. Avec Nicolas Sarkozy, il m'avait dit, non, vous vous trompez. Il faudra que la France aille encore beaucoup plus mal avant qu'on puisse espérer que ça aille mieux.
Oui, mais on a le parapluie de l'euro, on a le parapluie allemand, on a le parapluie de l'épargne des ménages. C'est pour ça que.
Enfin, on n'a plus le parapluie américain de la protection militaire, et on n'a plus l'énergie pas chère que nous fournissaient les Russes. Donc, quand on a quand même prospéré pendant 40 ans comme l'Europe sur l'énergie pas chère fournie par les Russes et sous la protection du parapluie nucléaire américain, et qu'on maintenant on va devoir se débrouiller comme des grands. Si avec ça, on n'est pas capable de se mettre les petits coups de pied aux fesses dont on a besoin, c'est quand même un peu à désespérer.
Quand on voit les programmes de 2027, c'est pas vraiment la bonne direction.
On en a qu'un pour le moment. Enfin,
allez,
on en a
la
deux.
Question macro. Comment la guerre en Iran, combien la guerre en Iran va-t-elle coûter de points de croissance? Céline Dion nous a dit cette semaine qu'il fallait danser. Mais quand on voit les révisions à la baisse des taux de croissance dans le monde, l'Allemagne, on a eu les indicateurs de confiance en berne en France, surtout dans le commerce et les services. On sait, Emmanuel, aujourd'hui, chiffré, combien ça va nous coûter à la fois dans le monde, en Europe, en France. On avait eu cette discussion il y a quelques semaines. Moi, j'avais été très surpris par les 0,5% que nous a annoncé Jean-François Robin, je crois. Aujourd'hui, on y voit un peu plus clair.
On y voit un peu plus clair parce qu'on a eu des scénarios. Valentine connaît par cœur les prévisions du FMI. Voilà, en gros, le scénario, c'est combien de temps ça dure, en fait.
Parce que les chiffres, ça y est, les chiffres montrent qu'il y a un ralentissement.
Oui, mais on voit déjà
une perte de confiance.
Bêtement par rapport aux...
Les Allemands ont dit ils passent de 1 à 0,5.
Oui, mais les Allemands, de toute façon, ils ont tout faux depuis 30 ans.
Ouais,
et là, ils sont complètement calminés. Et ce n'est pas seulement l'effet de la crise, de la guerre en Iran. Bon, grosso modo, c'est quoi? C'est 0,1, 0,2 points de croissance en ce moment par rapport à ce qu'était...
Un peu plus, on entend
0,5 partout.
C'est un peu plus, on est à 0,3, 0,4 sur l'Europe, un peu moins 0,2
sur
les États-Unis.
Oui, sur l'Europe, sur la France. Ouais.
Mais l'idée, moi, je pense, pour retenir, c'est déjà qu'il y a un niveau d'incertitude sur les prévisions qui est aujourd'hui extrêmement élevé. Et les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est l'impact minimum que cette guerre peut avoir sur nos économies. C'est l'impact minimum. Aujourd'hui, ça veut dire au minimum, au maximum, on a une croissance à 0,8 en gros pour la zone euro et 2,3 pour les États-Unis.
Mais sur des économies qui sont beaucoup moins cycliques, Valentine. Et ça change tout. C'est-à-dire que quand vous avez des amplitudes de croissance entre un rythme fort et un rythme faible qui est très faible, en fait, moi, je ne trouve pas que la fourchette d'incertitude elle soit si grande que ça.
Non, je ne suis pas...
Y compris sur l'inflation, d'ailleurs.
Je ne suis pas d'accord, parce que si on a ce conflit qui prolonge, pour moi, on peut rapidement basculer sur un vrai sujet de croissance aujourd'hui. Là, pour l'instant, et ce qui est notre scénario central chez Amundi, c'est un impact modéré sur la croissance, sur l'inflation, mais surtout, nous, ce qu'on anticipe, c'est une BCE qui ne bouge pas. Ce qu'on anticipe, c'est que l'impact de cette hausse des prix de l'énergie ne va pas se répercuter sur l'ensemble des prix de l'énergie dans l'économie.
Non, mais vous, votre pari dégonflé, c'est de dire que le prochain mouvement de la BCE, ce sera une baisse.
Un statu quo, pas de baisse, statu quo. Mais moi, ma crainte aujourd'hui, si on a ce scénario, si on a ce conflit qui se prolonge, parce qu'on est là, hein, l'incertitude aujourd'hui, c'est sur la durée de ce conflit. On va voir, pour moi, il y a deux sujets. Il y a le sujet, évidemment, de ce prix du pétrole qui va rester plus élevé plus longtemps. Une détérioration beaucoup plus forte de la confiance des ménages et des entreprises. Hein. On voit aujourd'hui déjà en Europe...
Ça y est, on est déjà beaucoup plus fort. On a vu tous les indicateurs qu'on a eus cette semaine,
Le point de bascule, c'est le durcissement des conditions de financement. Mmh. C'est une BCE qui est véritablement obligée de monter ses taux pour faire...
Elle ne fera pas ça avec une croissance qui s'effondre.
Si on a une inflation forte...
Mais si la croissance s'effondre...
Bien sûr.
Elle ne va pas briser...
Une banque centrale...
Sa mission, c'est l'inflation.
Mission, c'est de maintenir ancrées les anticipations d'inflation à moyen terme. Ça, c'est pour moi le job numéro un d'une banque centrale.
Est-ce qu'elle va refaire les conneries de 2022?
C'est ça, on ne va pas les refaire une fois.
En
2022, il fallait qu'elle monte les taux.
Il ne fallait surtout pas monter les taux, parce qu'on avait une inflation que de toute façon, ce n'est pas la hausse des taux.
C'était un choc de désorganisation de l'économie mondiale.
Chacun son tour.
D'accord, mais juste quelques chiffres 2022 pour comparer avec maintenant, où là, pour moi, l'impact sur la croissance, il peut être plus fort. 2022, on avait un marché de l'emploi qui était chaud bouillant. On avait au moins 3 millions nets de création d'emplois. Aujourd'hui, on est sur 1 million. On avait de la marge de manœuvre budgétaire sur certains États.
Mais ça va dans le sens qu'on dit. C'est-à-dire qu'il faut baisser les taux, pas les monter, Valentin.
Ça va dans le sens que si on a un conflit qui se prolonge avec un risque sur l'inflation, la BCE, quoi qu'on
pense... Le risque, c'est la croissance.
Oui, je suis d'accord. Mais si on est sur un scénario, un conflit qui se prolonge, un risque inflation. La BCE va monter ses taux et pour moi, il y a un vrai risque croissant.
Comme dit Emmanuel, ça fera encore une connerie.
Oui, mais Pascal... c'est pas parce que c'est une connerie qu'elle le fera pas.
Ah non, c'est sûr. C'est parce que c'est une connerie qu'elle le fera. Pascal.
Nous, on a. Alors déjà, la répercussion va être très inégale d'une zone à l'autre entre les émergents qui vont sûrement beaucoup plus souffrir en termes d'inflation et d'impact sur la croissance. Nous, on a fait des prévisions en fonction du prix du baril dans les 6 mois, on va dire, en moyenne. Et pour vous donner un exemple, sur un baril à 115 $, pour les États-Unis, on voit une baisse en effet de la croissance de 0,5, mais une inflation qui remonte de 1,3%.
Attends, une baisse de la croissance de 0,5, c'est-à-dire une récession ?
Une baisse
du PIB.
Ça coûte
0,5 de croissance aux États-Unis. Mais typiquement, pour la même chose dans les émergents, ça coûte 1,5 avec une inflation qui remonte quasiment 2 points. Donc l'impact, il est là. Moi, je rejoins quand même ce que dit Valentine. Je ne suis pas certaine que les banques centrales raisonnent comme nous en termes de croissance. La Fed, c'est un autre débat, on en parlera probablement après. La BCE, nous, on pense quand même qu'elle va monter ses taux.
Si elle fait ça, ça sera vraiment le
délire. Oui, mais en vrai, elle ne raisonne pas comme nous.
Non, enfin, là clairement, enfin, il y a des impacts, mais il y a aussi des éléments positifs, parce que, vous voyez, pour l'Europe, on est clairement un continent qui souffre de la situation actuelle, mais pour moi, c'est un catalyseur additionnel, un peu comme l'a dit Emmanuel, au changement qui se poursuit, parce que des prix du pétrole élevés, c'est une accélération de la transition écologique, et là, on voit les chiffres quand même en mars. Alors, c'est encore des chiffres, mais on n'a jamais eu autant d'immatriculations de voitures électriques nouvelles, donc c'est quand même une opportunité. Ouais, et puis, à terme... on parle de 500 000 unités
C'est que les exportations chinoises ont explosé aussi.
Très bien.
Mais les importations de voitures électriques.
Très bien, mais...
Je ne sais pas si c'est une opportunité plus de voitures chinoises.
Mais les fabricants européens vont s'y mettre... ils s'y mettent aussi, ils vont s'y mettre à moyen terme. Deuxième point, c'est le nearshoring. Donc, c'est vraiment la relocalisation des unités de production, sachant que c'est encore une. Il n'y a pas qu'une crise du pétrole, il y a une crise de matières premières, il y a un peu d'aluminium là-bas, beaucoup d'engrais. Donc c'est un deuxième wake-up call pour relocaliser des usines. Et là, on le voit, beaucoup d'entreprises installent des usines en Europe centrale, c'est clairement le cas. Ouais. Regardez l'activité du président Macron cette semaine, il parcourt la France pour inaugurer des usines. Honnêtement, un des points qui pêchait sur la réindustrialisation de la France, c'était aussi on avait donné trop de démocratie à des gens pour protester contre l'implantation des unités de production. Vous voyez, les écologistes ont bloqué beaucoup de choses, les normes, l'administratif. Et donc tout ça, on est en train de simplifier les barrières pour faciliter l'implantation. Donc, à force de simplification et de mouvement dans ce sens, ça va aussi créer un effet déclic positif. Bien sûr, c'est un effet déclic positif à moyen-long terme, alors qu'à court terme, on en subira un peu d'arrêt.
André, moi, je voudrais avoir le nom de votre médicament, parce que le gars, il pense qu'on va avoir le cerf, qu'on va avoir un homme providentiel, d'accord, et que derrière, on va réindustrialiser la France. Alors, soit vous êtes sous Extra, soit il faut nous dire ce que vous prenez, parce que je veux exactement le même traitement.
Non, mais moi, il y a des choses qu'il faut acheter. Si vous regardez quand même les nouvelles règles du jeu de l'économie mondiale, la plasticité qu'on a vue, par exemple, avec l'effet de droits de douane, c'est-à-dire quand même, les droits de douane de 2025, c'est au final un boom du commerce mondial. Donc, il s'est passé des choses. Donc, moi, je n'achète que le scénario qui nous met en difficulté, ça ne peut être qu'un choc brutal. J'achète pas du tout le scénario de Valentine, je le trouve à l'ancienne, en fait.
Elle est à l'ancienne, Valentine.
C'est-à-dire que
l'école Lagarde.
Les seules choses qui peuvent provoquer des récessions aujourd'hui, c'est des chocs brutaux. C'est la crise financière de 2009. C'est la crise financière de 2009. C'est le Covid. C'est la guerre en Ukraine. Mais à part ça, je veux dire, on n'a aucun risque d'avoir.
S'il y a une réévaluation du risque sur les marchés financiers, si les banques centrales montent leurs taux.
Le pétrole à 100 $, on peut le supporter. Au contraire, là, c'est là où je rejoindrai. Le scénario d'un pétrole autour de 100-110 dollars le baril, c'est le scénario de l'accélération de la transition énergétique sans trop de douleur.
Je veux bien.
Sans trop de douleur.
On s'arrête tout de suite, on va se reparler.
Avec quels moyens financiers ? Avec quels moyens ? Parce que la première partie, c'était quand même pour parler de la dette sur PIB de la France. Avec quels moyens financiers on finance
cette transition ? On se retrouve en deuxième partie de l'émission, de cette émission qui est très chaude avec des gens à l'ancienne pour parler de la bourse, des placements de la semaine, du top 3 des gérants. Et puis, Valentine va partir entre les deux parties. On se retrouve tout de suite.
BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve pour cette partie de l'émission. La première partie était très très chaude, hein. Ça a volé, j'ai dû les arrêter pendant le break. Avec Emmanuel Lechip, avec Pascal Sévy, avec l'homme aux lunettes roses. Là. Franchement, vous m'avez redonné la pêche pour le week-end, André. Merci beaucoup.
Super.
Et puis j'attends de voir le cerf, je vais regarder partout. Donc ça va être quand même ma recherche de ce week-end, ça va être
un
de chercher le cerf.
Et une armée derrière, voilà.
Ouais, une armée et un homme pour mener l'armée.
Voilà.
Et ou
voilà.
Une femme.
C'est le soleil qui nous a sauvé.
Voilà,
c'est
le soleil.
Et la pluie qui nous a plombé à Waterloo. Et Valentine, donc vous avez dit qu'elle était à l'ancienne, c'est ça, Emmanuel Lechip, hein.
Non, j'ai dit que le dérouler le scénario.
Ah ouais, d'accord, il s'est calmé.
D'un risque de récession à cause de la hausse des prix du pétrole, etc. C'est une vision un peu datée des cycles économiques.
Allez, on se retrouve pour parler tout de suite des marchés. Alors, les marchés cette semaine, bon, c'était moyen. Alors, give peace a chance, on n'a pas trop l'impression que c'est l'ambiance actuelle. On ne sait pas qu'est-ce qui est de l'info, de l'intox. Bon, les messages de Trump se multiplient et ne sont pas toujours les mêmes. Depuis le début de l'année, moi, ce qui me frappe quand même, et j'aimerais avoir vos avis, surtout l'avis des gérants, c'est quand même, il y a trois semaines, on était branché sur n'importe quel tweet, on prenait 3%, on baissait de 3%, c'était la panique. Là, on a eu les Iraniens qui ont attaqué un bateau, un tanker. On a l'autre qui dit, Trump qui dit, il faut abattre tous les bateaux. Et puis le marché qui bouge pas. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Les investisseurs. On a eu même eu des records, historiques.
Ouais, tout à fait.
Donc, qu'est-ce qui se passe?
Le marché américain, en tout cas, il a clairement pricé la paix. Ça, c'est certain. Donc, évidemment.
Est-ce qu'il a pricé la paix ou est-ce qu'il a pricé ce que dit Emmanuel? C'est-à-dire le fait que, quoi qu'il se passe, de toute façon.
Il a pricé le fait que le conflit va s'arrêter prochainement et que tout va redevenir normal et que les forces qui poussaient le marché en ce début d'année, qui étaient bien réelles, c'est la croissance des bénéfices par action, c'est des banques centrales accommodantes, c'est des politiques budgétaires expansionnistes, que tout ça va revenir et on le voit quand même. Alors, il faut trier un peu les publications, mais dans les résultats des entreprises, c'est plutôt de bonne facture. Après, c'est un marché qui reste très nerveux, quelque part. Parce que
Que ça. Alors, franchement, cette semaine, j'ai été très surpris. Jusqu'à présent, je suis d'accord avec vous. Cette semaine, j'ai trouvé que, et je suis assez d'accord pour une fois avec ce que dit Emmanuel, j'ai eu l'impression que les gens se disaient, bon, finalement, quels que soient les scénarios, on va s'en sortir.
Non, mais c'est pas nerveux dans ce sens, c'est plus nerveux dans la rapidité des mouvements, en fait.
C'est ça.
C'est dans ce sens.
Sur les titres.
Je vais vous donner juste quelques chiffres qui sont quand même assez incroyables. Alors, je pars de la semaine dernière, la semaine de bourse, la semaine dernière, le S&P avait effacé en 7 séances, toutes les pertes qu'il avait subies depuis le début du conflit a atteint un record. Le Nasdaq, 13 séances consécutives de hausse. On n'avait pas vu ça depuis 2013. Ouais. Avec Détroit d'Hormuz sous blocus, etc., etc. Et on est passé d'un marché de survendu à suracheté en 11 séances. Ouais. C'est quand même des statistiques qui sont assez dingues.
Ouais.
Et j'ajoute, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, on a rarement une telle dichotomie entre le sentiment dans l'économie réelle quand vous regardez le moral des ménages, des investisseurs et ce qui est en train de se passer sur les marchés financiers. On a vraiment un speed. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que si jamais on n'arrive pas à ce scénario que le marché achète d'un conflit qui va se terminer, un pétrole qui va se stabiliser, attention à l'effet de retour.
Oui, mais ça fait un moment qu'on dit ça.
Ce que ça a démontré sur en tout cas les deux, trois dernières semaines, c'est que le marché est prêt à ce que le conflit se calme dans un futur proche.
André, vous achetez cette thèse-là? Moi, j'achète assez la thèse d'Emmanuel de dire, en fait, les marchés se disent, même si ça continue, finalement, on va s'habituer, on sait faire.
Alors, moi j'aimerais quand même parler d'une dichotomie entre les marchés européens et américains, parce qu'il y a deux moments, dans l'année. On est à 4 mois du début de l'année, jusqu'à fin février, donc c'était vraiment l'Europe au pinacle, et les États-Unis qui ne faisaient rien. Le CAC était à plus 5, plus 6, l'Eurostox, pareil. Et le S&P 500 était à zéro. La guerre en Iran, bon, bien sûr, a fait chuter tout le monde dans un premier temps, mais ensuite, le rebond n'a eu lieu qu'aux États-Unis et pas en Europe.
Ça ne marche pas, il marche.
Et donc, c'est là où il faut, je pense, être assez précis, parce qu'aujourd'hui, on est à peu près à zéro.
Elle n'est pas précise.
Non, mais on est. Non, non,
j'ai précisé. Si, elle a précisé.
Elle a parlé des marchés US.
Elle est un peu à l'ancienne, non, Pascal aussi.
Merci pour les femmes.
Donc on est aujourd'hui bilan, on est aujourd'hui à plus 3 year to date aux États-Unis, alors qu'on est retombé à zéro en Europe. Ouais, voilà où en sont les marchés. Et alors c'est là où j'en suis. Enfin, la situation, elle intéresse peut-être un peu moins les médias, parce qu'on est dans une espèce de ni paix ni guerre. Donc c'est un état instable, avec quand même, je pourrais dire, un président américain qui lui regarde la bourse, comme on le sait, et qui voit qu'aujourd'hui, le grand gagnant de la guerre, c'est les États-Unis. Les grands perdants, ce sont surtout les pays émergents, ensuite l'Asie, et ensuite, dans une moindre mesure, l'Europe, qui est aussi à la marge perdante, quand même. Et donc, ça... Alors, bien sûr, les prix du pétrole ne sont pas bons pour les ménages américains. Ah oui. Donc, c'est clair.
Ça, c'est clair, quand même.
Ceci dit, les indices au plus haut, ce n'est pas une incitation extrêmement forte pour lui à faire des concessions. Alors, après, est-ce que c'est une incitation pour lui à faire de l'escalation? On n'en sait rien. Mais aujourd'hui, les marchés sont plutôt dans un état un peu instable. Mais cette situation génère des anxiétés et des crises, et je vais vous en livrer une sur un secteur qui était avant au pinacle et adulé par les marchés, parce que non disrupté IA, c'était tout ce qui concernait l'aviation, les motoristes, voilà, ça, c'était un secteur qui était au top de la valorisation boursière. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les prix du pétrole qui montent? Les prix du kérosène d'aviation ont monté encore plus, et parfois dans certaines zones mondiales, en Asie, ils sont même encore plus chers qu'en Europe. Et donc, on a des annulations de vols, donc destruction de la demande. On a aussi des compagnies aériennes qui sont obligées à augmenter leurs prix. Donc, ça fait des réservations en moins. Et donc, vous voyez, toute la chaîne est pénalisée. Les compagnies d'aviation sont pénalisées. Donc ensuite, les motoristes aussi qui assurent la maintenance, qui sont un peu les fournisseurs, sont pénalisés. Voilà un secteur qui était au sommet de tout, et qui souffre quand même de cette situation. Donc il ne faudrait pas que ça dure très longtemps, sinon ça pourrait être un derating plus prononcé.
Valentine, un élément essentiel pour les marchés, c'est évidemment l'évolution des taux d'intérêt.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui price le marché aujourd'hui, vous pensez, sur les taux d'intérêt?
C'est une histoire quand même assez différente de ce qui se passe sur les marchés actions. Moi, ce que je trouve sur les marchés actions, la bonne tenue des marchés actions, pour moi, c'est le scénario de risque, le scénario du pire, dont la probabilité a énormément chuté avec l'annonce du cessez-le-feu. Même si ce cessez-le-feu est fragile, énormément discuté, il y avait quand même ce scénario du pire où on avait vu Donald Trump qui menaçait de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre en détruisant toutes les infrastructures énergétiques. Il y a la probabilité de ce scénario, qui est quand même un scénario catastrophe, qui a énormément diminué. Donc ça, pour moi, c'est ce qui amène une bonne stabilité sur les marchés actions. Mais on voit que les marchés taux sont un peu à l'ancienne. Les marchés taux, beaucoup plus prudents. Et les marchés taux, ils sont toujours surtout, ils anticipent toujours beaucoup de hausses de taux des banques centrales. On est toujours sur 3 hausses de la BCE.
Donc vous dites que les marchés taux et les marchés d'actions sont déconnectés, c'est ça?
Pour moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine déconnexion avec des marchés taux qui sont quand même sur une histoire où il va y avoir de l'inflation, les banques centrales, on est toujours sur un choc d'inflation, un choc de taux, hein, les banques centrales vont devoir réagir, et c'est pas encore l'histoire, je trouve, et je trouve que c'est ce risque croissance, parce qu'il y a quand même un risque croissance, et on est tous d'accord, toute cette table, il y a un risque croissance si les banques centrales montent leurs taux, qui n'est pas aujourd'hui valorisé par le marché actions.
Je suis pas sûre de ça. Je pense que le marché actions a accepté le fait, a anticipé le fait qu'il allait potentiellement y avoir des hausses de taux en Europe.
Ah bon?
Ouais. Mais 3 hausses de taux.
Oui, parce que les taux ont déjà accusé le fait, enfin Valentine le sait mieux que moi, mais les taux sont déjà montés en fait.
Les taux à long terme.
Au long de la courbe. Oui, mais c'est des anticipations aussi de hausses de taux à plus court terme peut-être.
Mais après, je me dis que si la BCE commence à monter 3 fois ses taux, quelles vont être après les anticipations? Comment vont évoluer les anticipations?
Pour moi, c'est un cauchemar d'entendre ça. Si la BCE.
Oui, mais le marché a accusé aujourd'hui, le consensus, c'est sur une hausse de taux de la BCE.
C'est une croissance pour moi. je partage
Emmanuel, c'est quoi votre vision quand vous regardez ça un peu, les marchés, ça vous inspire quoi? Vous dites, les gars, ils sont vraiment dans une autre bulle. Je sais que vous pensez que les traders, ils vivent dans un monde parallèle.
Non, mais juste d'abord, une petite parenthèse, parce que c'est important pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Et c'est ça qui fait la richesse des discussions, c'est qu'on ne parle pas du tout du même endroit avec Pascal, Valentine et moi. C'est-à-dire que Pascal et Valentine, elles représentent des très grandes maisons qui gèrent des montants considérables. Chacun de leurs mots compte. C'est-à-dire, moi, je suis un feu follet. Je me permets d'agiter des idées. Donc, c'est pour ça que...
Mais ce qu'il ne faut pas entendre.
Non, mais la réalité, c'est que c'est normal qu'elle se repose sur des scénarios solides, plutôt mainstream, en fait, entre guillemets. Et moi, je vais plutôt sur les scénarios qui sont un peu...
D'accord, qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, je pense que,
la bonne
tenue des marchés, c'est pas tant que ça des paris sur la guerre, la paix, moi etc. Aussi. C'est une forme d'indifférence que moi j'appelle plutôt de la résilience.
Ouais, je trouve
c'est
ça.
C'est une confiance.
Je suis assez d'accord avec
dans
vous.
Une capacité
vous m'avez convaincu.
À être résilient sur un choc qui, s'il n'était pas convaincu. Énergétique, resterait un choc géopolitique régional. Franchement, s'il n'y avait pas cet effet énergie. Donc, là-dessus. Et puis sur les taux, je continue à pointer le il y a quelque chose que je comprends toujours pas dans le raisonnement de Valentine entre parce que elle nous dit un coup il y a un risque récession et un coup il y a un risque inflation.
Bah oui, je comprends.
Et du coup, je comprends pas en fait si tu as un risque récession, tu peux pas avoir un risque inflation. Sauf si tu as un
c'est
énorme
en deux
choc.
Temps, c'est une question de séquence. Les deux n'arrivent pas en même temps, c'est une question de séquence. Aujourd'hui, il y a un risque inflation. On a des banques centrales qui peuvent monter leurs taux. Pour moi, on est dans un environnement de croissance qui est fragile. Et si les banques centrales, aujourd'hui, montent les taux, on a un risque
de
croissance.
C'est là où on n'est pas d'accord. C'est que je pense que c'était l'erreur, elle était compréhensible pour deux raisons en 2022. C'est parce que c'était un vrai choc d'offres et qu'on était dans une période ascendante.
Et c'était une erreur.
Valentine l'a dit tout à l'heure, 3 millions d'emplois.
Bon, mais, donc voilà. Vous continuerez le débat tout à l'heure.
Et la deuxième raison pour laquelle les taux avaient beaucoup monté, c'est qu'il y avait, enfin, en gros, on n'avait pas vu de choc inflationniste depuis les années 70. Et donc, ils avaient réagi à l'ancienne.
Alors que là,
on a quand même l'expérience de 2022. On n'est pas sur la même trajectoire économique. Donc,
pour une
moi,
fois,
je
suis d'accord avec Emmanuel.
Absolument pas à ces trois ou deux.
Allez, on va passer tout de suite.
Scénario que le prochain mouvement de la BCE, ce sera pas une hausse, ce sera une baisse.
Moi aussi. Allez, scénario.
Allez, je dis que j'achète ton scénario.
On passe tout de suite au placement de la semaine ou alors l'allocation de la semaine, comme vous voulez, Pascal. Qu'est-ce qu'on fait dans ces marchés-là? Parce qu'on est un peu perdu. Hein.
Alors, ça va peut-être vous surprendre, et nous, on a augmenté un petit peu notre exposition au marché actions.
Ok. Visiblement, vous n'avez pas été les seuls quand on voit la progression des marchés.
On est légèrement surpondéré. Hein. Donc, la surpondération, ça veut dire qu'on a notre allocation en début d'année et qu'on a décidé d'augmenter un peu notre exposition au risque. Et on est revenu, en fait, sur les émergents. On s'était mis à neutre, on est remonté sur les émergents.
D'accord.
Parce qu'on estime qu'il y a une décote qui est extrêmement intéressante du fait de la baisse qu'il y a eu justement, le derating qu'on a eu sur les émergents. On a une décote aujourd'hui entre les pays développés et les pays émergents sur les valorisations qui est quand même de quasiment 40%. La Corée, vous en parlez souvent, la valorisation aujourd'hui du marché coréen, on est en dessous de 7. Donc c'est vraiment intéressant.
On est en dessous de 7, mais le marché a pris plus de 40% depuis le début de l'année. Ouais, il a pris 70%
regardez
l'année dernière.
Le fait qu'il y ait une baisse là, ça a fait que, récente, ça a fait que la valorisation, en fait, s'est réduite.
Ouais.
Donc, ça nous donne quand même des opportunités pour y aller. Et la Chine
quand
aussi...
Quand vous dites pays émergents, parce que, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, qui nous disent, on ne peut pas mettre dans le même panier la Corée, la Chine, et puis l'Afrique subsaharienne. Donc,
absolument. Non, il faut choisir. En fait, vous avez plein d'indices ou d'ETF qui excluent certaines zones ou certains pays. Donc, on peut choisir vraiment là où on a envie d'investir.
Donc, la Chine, on y va, par exemple.
Nous, on estime que la croissance était plutôt bonne on ne sait jamais trop si elle est réelle ou pas. En tout cas, en relatif, elle était plutôt bonne, la croissance du premier trimestre, pas loin de 5% si ma mémoire est bonne. Donc oui, c'est des zones aujourd'hui, du fait qu'il y a justement un défaut de valorisation qui nous semble intéressante avec des entreprises, parce que c'est quoi les émergents asiatiques? On parle quand même beaucoup de TSMC, je ne sais plus comment on dit.
Alibaba, enfin toutes ces boîtes-là, etc. Enfin tous ces leaders-là, vous
Taïwan
dites que ça.
Taïwan Semiconductor.
Ouais.
Et c'est quand même aussi tiré beaucoup par ça, mais c'est des entreprises aujourd'hui qui continuent en fait de faire leur part sur le marché mondial.
Donc, et quoi d'autre? L'or, vous continuez?
L'or, on continue d'y aller. Donc peut-être pour vous donner très vite l'allocation de profil équilibré que je donne à chaque fois.
Allez-y.
En liquidité, on est à 4%. On a refait un tout petit peu de poudre sèche. Les obligations, on est à 37%. Pour nous, c'est un niveau neutre. dans un portefeuille équilibré. Actions, on est à 46,5. Donc, comme je disais, on a...
Ah, c'est pas mal, hein, vous êtes bien remonté quand même.
Oui, ben, en fait, on était neutre la fois précédente. Mmh. Et là, on est légèrement surpondéré avec les émergents. Alternatif, on en rajoute toujours. On a toujours, nous, 10% de hedge fund dans notre allocation. Un vrai rôle de stabilisateur dans les marchés compliqués et diversification. Parce que je rappelle que c'est des fonds qui ont pour vocation
d'être décorrélés. Qui font de la performance absolue.
Quel que soit le scénario de marché, dans la théorie. Et on a 5% d'or, donc oui, on continue d'être surpondéré aussi sur l'or. Vous avez tous vu le mouvement de baisse qu'on a connu pendant le conflit, qui s'explique de plein de manières différentes, mais les forces qui poussent l'or et les achats des banques centrales et la dédollarisation notamment, et le fait que le dollar se soit de nouveau un petit peu affaibli, ça nous donne...
Et vous me disiez dans le couloir que vous préfériez votre allocation à celle d'Alain Pitou qui était pitoyable.
Oui, à celle de, à celle de tous qui passe là, en fait, voilà, avec beaucoup de prétention.
Le placement de la semaine pour vous
Alors, écoutez, moi, je voudrais, bien sûr, nous, on est une maison action. Moi, je voudrais faire ici, profiter de ce plateau pour faire un plaidoyer pour la gestion active. Alors, la gestion active pour nos auditeurs qui est en opposition à la gestion passive, donc indicielle. Nous avons co-signé cette semaine une tribune avec six autres sociétés de gestion, donc Carmignac, BDL, il y avait Siam comme geste et quelques autres. Une tribune qui essaye de remettre le rôle dans de la gestion active et qui prouve, chiffre à l'appui, qu'elle est performante, qu'elle est même plus performante dans certaines typologies de gestion active que
les gens passive. Comprennent, parce que c'est important, la gestion active, c'est ce que vous faites.
C'est-à-dire,
on a des gérants, vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des algorithmes. On a des gérants qui choisissent des valeurs et qui ont des convictions.
Voilà.
Et puis, ce qu'on appelle la gestion passive, c'est soit la gestion quantitative, algorithmique, mais c'est de plus en plus, et c'est lié des indices, on a parlé d'ETF tout à l'heure, des instruments qui réplique fidèlement l'indice sans faire de différenciation sur le choix des valeurs.
C'est exactement ça.
Okay.
Et donc, nous, ce qui est important de voir, donc c'est une étude à l'appui, c'est que dès lors qu'une gestion active s'écarte très fortement de son indice, avec des titres qui sont sélectionnés un à un et qui font que le portefeuille est à plus de 60-70% différent de la composition indicielle, les fonds, en moyenne, en Europe, génèrent de la surperformance, donc c'est une surperformance d'à peu près 1% annuel, au-delà de l'indice. Et donc, ça vient contrecarrer le mythe qui est marketé de façon extrêmement agressive par les promoteurs de la gestion indicielle qui veut dire que toute la gestion active sous-performe. Or, dans la gestion active, vous avez deux catégories de gestion active. Vous avez la gestion entre guillemets faussement active, qui est la gestion benchmarkée. Ce sont des gens qui collent en réalité aux indices
qui
lisent dans le marc de café. Ils disent, je vais surpondérer un peu ce secteur, je vais sous-pondérer ce secteur. Bon, et comme ce sont des produits qui sont assez chargés en frais, en général, et sur le long terme, ils sous-performent le marché. Voilà. Or, la gestion active, véritablement active, c'est ce que nous faisons, c'est ce que font aussi d'autres maisons que j'ai citées. Elle ajoute de la valeur, et non seulement elle ajoute de la valeur puisqu'elle bat les indices, mais enfin, c'est ce que nous avons prouvé. Nous sommes là depuis 23 ans et nous l'avons vraiment fait.
Ce que j'avais envie de vous dire quand même, André, c'est que des Warren Buffett, des Romain Burnand, des André Cavalet, qu'il n'y en a pas 50 ans.
Et il y en a quelques-uns quand même.
André, c'est quand même ça le problème, c'est que moi je me mets à la place de l'épargnant, à qui on confie son argent, il choisit
des bons gérants actifs.
Voilà. Mais il n'y en a pas tant que ça. Vous n'êtes pas si nombreux. C'est très sympa d'avoir signé une tribune avec plein de gens, mais vous n'êtes pas si nombreux à faire de la surperformance par rapport à vos indices.
Voilà. Mais disons, les gens malins, ils allouent leur épargne chez ceux qui surperforment.
En tout cas, c'est très intéressant.
Et donc, non seulement cette gestion active, elle surperforme, mais aussi elle finance l'économie, puisque par définition, c'est ça qu'il faut marteler, c'est que la gestion indicielle ne participe pas aux IPO, ne participe pas aux augmentations de capital, et donc ne finance pas l'économie.
Alors là, je vais vous demander juste de dire ce que c'est. Top ou flop de la semaine, sans expliquer, parce qu'on n'aura pas le temps.
Moi, mon top, c'est la guerre en Iran, qui a relancé la demande pour les panneaux solaires. Et on voit que cette guerre en Iran, va relancer toute la demande pour les infrastructures énergétiques, pour la défense. Et que ça, c'est un plus pour la demande.
André, top ou flop ?
J'applaudis pour le flop de Valentine. Flop pour moi, c'est la proposition de députés socialistes dont l'histoire, j'espère, ne retiendra pas le nom, de taxer les héritages de nouveau. Ben ouais. C'est la même chose qui revient. Allez. J'espère que ce truc-là sera enterré. C'est mauvais.
C'est le flop, l'ouverture du système en début de semaine pour que les entreprises américaines puissent aller demander remboursement des droits de douane après l'invalidation de la Cour suprême, 127 milliards de dollars potentiellement.
Emmanuel, top flop.
La situation financière de notre gouvernement. Comment on peut autant gérer son argent en père de famille? C'est-à-dire qu'on voit bien que la seule fortune qu'ils ont, c'est de l'immobilier.
Et encore.
Roland Lescure, c'est
encore
appartement. Et comment on peut gérer aussi, de façon aussi dispendieuse, les finances publiques?
Je suis d'accord.
C'est bizarre.
Top 3, très rapidement. On est très à la bourre. Pierre Chang, 14, parce que c'était passionnant. 14,7%. Bravo, Pierre. Stéphanie Mauger, 8,4%. Léa Dunant-Châtelet, 6,3%. Est-ce que vous pouvez mettre une musique qui fait peur pour je lise le portefeuille de Pascal Séville. Pascal Séville, vous avez du Visa. Je vais très vite, vous me dites ce que vous gardez ou vendez.
Vas-y.
Visa, Salesforce, ASML. On vend Salesforce, ouais. ASML, Sika, Thermo Fisher Scientific.
Et je vends.
On vend Sika.
Sika, okay. Thermo Fisher.
On vend aussi Thermo Fisher, ouais. Microsoft.
Je garde tout le reste.
Infineon, Alphabet, Richemont, Chénière Énergie qui a pris 32% depuis le début de l'année, Ferrari, Eaton, Marsh & McLennan, Iberdrola, Uber, Datadog, on garde tout ça.
On garde tout le reste.
Qu'est-ce qu'on achète?
Alors, on achète BYD, que vous connaissez tous, je pense.
Je savais
que vous n'alliez pas aimer.
C'est moche.
Attendez,
c'est moche, excusez-moi, ça va dans le sens de ce qu'on dit.
C'est
le leader aujourd'hui des voitures électriques et des voitures, des hybrides rechargeables.
Oh, ça me déprime.
C'est eux qui l'ont commercialisé en premier, la voiture hybride rechargeable. C'est une entreprise qui a été fondée en 1995, donc elle est quand même encore relativement récente.
Poignardée par ses propres amis.
Bah ouais, mais écoutez, c'est...
Et BYD qui va être bientôt disrupté par d'autres nouvelles marques.
Ouais, ou qui va racheter
Porsche. Alors ils sont quand même, ils intègrent tout. Ce qui est intéressant avec cette entreprise, c'est qu'ils intègrent en fait toute la chaîne. Ils font aussi leur propre batterie. C'est une des complètement verticalisée.
Dites au revoir à Pascal qui vient avec cette dernière recommandation qui vient de signer sur la dernière émission dans C'est votre argent. Allez, on passe tout de suite parce qu'on est à la bourre avec...
Ouais non, allez-y. On n'a pas le temps, c'est pas grave.
Allez, André, je vous donne votre portefeuille. On a du Alten.
On garde.
On a du LDC.
On garde.
On a du Canal+.
On garde.
On a du Erste Bank.
On garde.
On a du Emeis ex-Orpea.
On garde.
On a du Orange.
Orange en vend. Le deal avec SFR a été annoncé. La valorisation...
Vous avez bien progressé, ça fait 20%.
Nous paraît maintenant refléter toutes les synergies futures. Le titre se traite à 6,5 l'EBITDA. C'est à peu près 7 fois le multiple dans des marchés consolidés, comme le sera la France après ce deal. C'était 5 fois dans un marché pas très bon.
Éclaté.
Voilà.
On a et du Elis. On a du Elis.
Elis, on garde, oui.
Ok, et on a du Saint-Gobain.
Saint-Gobain, tout à fait.
Que vous aimez toujours. Et qu'est-ce qu'on achète?
Alors, on achète Strabag. Alors, Strabag, c'est une société de
prenez votre temps,
d'avoir
plein de temps.
Elle n'a pas fini, parce
non, mais je plaisante.
Elle mérite une minute de plus.
Ouais, je vais lui donner si on a le temps.
Je vais aller très vite. C'est un Bouygues autrichien qui est très présent en Allemagne, donc bénéficie du plan de reconstruction de relance des construction des infrastructures allemandes, et aussi en Europe centrale, 10 fois le PE. Donc on joue vraiment la croissance très forte qu'il y a et qu'il y aura dans les années à venir de l'Europe centrale.
On joue le cerf, quoi.
On joue le cerf Europe centrale, voilà. Et donc, ça nous ferait trois valeurs exposées à l'Europe centrale avec Saint-Gobain, Erste et donc maintenant Strabag.
L'occasion de revoir ce week-end Voyage au bout de l'enfer. Comme vous revenez, vous n'allez pas revenir, vous avez une minute de plus dans cette émission pour nous parler de BYD.
Je vous propose un tour en BYD.
Allez-y sur BYD.
Non, mais c'est une entreprise qui est quand même intéressante. Elle est incontournable aujourd'hui dans le monde de la voiture électrique. C'est une entreprise qui est innovante, qui connaît une expansion internationale qui est significative. Et de nouveau, ce qui compte, c'est l'intégration verticale qui est inégalée dans ce domaine-là, puisqu'elle fabrique pas que des voitures, elle fabrique aussi ses batteries, des composants même pour les téléphones mobiles. Donc ça vaut la peine.
Et ça, par exemple... Ça, par exemple, ça fait quoi? Ça fait quoi depuis le début de l'année? C'est plutôt en baisse, ça a plutôt chuté avec la guerre en Iran, c'est relativement
stable. J'ai plus le chiffre en tête de ce que ça a fait depuis le début de l'année. Ce que je peux dire, c'est que ça cote autour de $100 hongkongais et que le prix qu'on vit, c'est 130. Mais je ne sais plus exactement combien
Bon, allez, on va enlever cette partie au montage puisqu'il y a une censure comme en Chine ici. Merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités de marque. Alors attention, la semaine prochaine, on se retrouve pour une émission spéciale, très spéciale même, c'est une spéciale placement. On a fait venir des vrais spécialistes cette fois du placement pour nous donner des vrais conseils pour savoir où placer son argent. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous réécouter, nous revoir en replay, en podcast. Il faut à tout prix combattre encore le record de mars. Emmanuel, la librairie de l'écho.
La librairie de l'écho, c'est une librairie toute en douceur. On s'intéresse aux soins avec une économiste danoise qui cartonne, qui s'appelle Emma Holton, sur l'économie du soin. Et puis alors un architecte complètement dingue qui est Carlos Moreno, qui est l'homme qui a inventé la ville du quart d'heure et la région des 30 minutes.
On sera là.
Il est en train de révolutionner Budapest et on a même fait l'interview dans le bureau du maire de Budapest.
On suivra ça sur les plateformes, en podcast, en replay ou en direct.
C'est votre argent sur BFM Business.